Deutéronome 34, et je le lirai en entier. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. L'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda, jusqu'à la mer Méditerranée. Le Négev, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, « Voilà le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, « Je le donnerai à ta descendance. » Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Moïse, le serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, conformément à l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'enterra dans la vallée, dans le pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a su où était son tombeau, jusqu'à aujourd'hui. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était pas affaiblie et il n'avait pas perdu sa vigueur. Les Israélites pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Puis les jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Noun, était rempli de l'esprit de sagesse car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les Israélites lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a plus surgi en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Personne ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'a envoyé faire en Égypte contre le Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les actes terrifiants que Moïse a accomplis avec puissance sous les yeux de tout Israël. Lorsque j'avais environ 16, 18 ans, je ne sais plus exactement, j'ai reçu un livre en anglais, et si je traduis le livre, c'est « Vivre au-dessus du niveau de la médiocrité ». Peut-être que la personne qui m'a offert ce livre essayait de me communiquer quelque chose, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Probablement pas, hein, probablement pas. Le livre parlait du refus de tomber dans la lâcheté, de le manque de discipline et encourager justement à progresser, à faire des efforts dans ces domaines. Mais il commence, l'auteur, par l'histoire d'un garçon qui s'appelle Oren, l'histoire vraie d'un garçon qui a grandi dans la banlieue de San Francisco, dans un quartier difficile, et qui, très jeune, a une maladie qui ramollit ses os. Sa mère, avec les moyens du bord, arrive à faire des attelles. Mais c'est seulement à l'âge de 6 ans que ce garçon va avoir des jambes qui le tiennent correctement. Simplement, à ce moment-là, sa tête et son corps sont disproportionnés. On se moque de lui à l'école. Par la suite, Oren, comme la majorité des jeunes de ses quartiers, va rejoindre une bande. Il connaît la pratique de la violence dans la rue, les rixes, etc. Mais l'auteur du livre continue en dévoilant une formidable transformation qui s'opère dans sa vie. Il va devenir footballeur américain, rejoindre une équipe, il va apprendre la discipline, il va progresser, il devient maître de lui-même dans ses émotions sur le terrain. Il devient même un des meilleurs joueurs de la NFL. Rapide, endurant, il a appris à être discipliné et il reçoit plusieurs titres au point où tout le pays le connaît. Il suscite l'admiration de tous par cette transformation qui s'est opérée dans sa vie et a commencé par l'auteur de ce livre. C'était là, à la fin des années 80, que le livre a été rédigé. Mais en juin 1994, c'est le choc. Oriental James Simpson est accusé d'avoir assassiné son ex-épouse et son ami. Vous avez peut-être, pour les plus âgés d'entre nous, le souvenir de cette course-poursuite qui a été filmée et aussi des longues semaines et mois de procès qui ont suivi. Il a été inculpé, non pas pour ces faits-là, mais pour d'autres faits par la suite. Ce procès-là, il a été acquitté dans un premier temps. Mais pour tout le monde, c'était le choc. Comment pouvait-il avoir connu une telle transformation dans sa vie, susciter l'admiration de toute une génération et terminer comme cela? Eh bien, en lisant les lignes que l'on a eues tout à l'heure, c'est le choc que l'on devrait ressentir lorsqu'on entend le fait que Moïse meurt à l'extérieur du pays promis. Et le choc devrait même être plus grand si on y réfléchit. Le fait que Moïse n'entre pas dans le pays qui était pourtant l'objectif de sa vie, ça devrait nous interpeller, nous surprendre, nous choquer. Le texte affirme ici, on va le voir, que c'était un homme exceptionnel. Et le fait qu'il n'entre pas devrait nous surprendre, nous choquer. À différents endroits dans la Bible, et on l'a entendu dans le psaume 95, l'entrée dans le pays est synonyme d'entrée dans le repos, et même dans le livre du Deutéronome, et c'est donc dans ces termes-là que l'on va parler de l'entrée dans le pays, entrer dans le repos, et voir, comme l'épître aux Hébreux le fait, un parallèle avec nos vies, comment entrer dans le repos de Dieu. Je suggère de voir dans ce texte que le repos auquel Dieu nous appelle est à la fois surprenant et apaisant. Il est à la fois surprenant et apaisant. Ce sera l'occasion de se demander où est-ce qu'on va trouver son repos. Autrement dit, quel va être le fondement pour nous reposer et même au cœur du travail de trouver notre satisfaction. Où est-ce qu'on va la trouver? Et dans les moments difficiles, où est-ce qu'on va retrouver les forces, le renouvellement pour se relever? On va parler en deux temps de ce repos. Ce repos-là a quelque chose de surprenant dans un premier temps. Et ensuite, ce repos a quelque chose d'apaisant. D'abord, quelque chose de surprenant. Moïse n'entre pas dans le pays alors que le peuple va y entrer. Quant à Moïse, au verset 10, vous l'avez entendu, il est dit qu'il n'a pas surgi en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Mais Moïse n'entre pas dans le pays. Bon, généralement, que si le corps de Moïse n'a pas été retrouvé, c'est pour qu'il ne devienne pas un objet d'adoration, de superstition. On a affaire à quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un d'admiré, mais Moïse n'entre pas dans le pays. Le texte nous dit, versets 11 et 12, que personne ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'a envoyé faire en Égypte, mais Moïse n'entre pas dans le pays. Il est celui par qui Dieu a libéré son peuple de l'esclavage en Égypte. Il a ouvert les eaux par son intermédiaire, la mer des roseaux. Mais Moïse n'entre pas dans le pays. D'ailleurs, il nous est dit que Moïse était l'homme le plus humble de la terre. Mais Moïse n'entre pas dans le pays. D'ailleurs encore, Exode 33, il est dit que l'Éternel parlait avec Moïse comme un homme parle avec son ami. Mais Moïse n'entre pas dans le pays. Moïse a encaissé les critiques, les plaintes, les insultes même, les attaques contre sa personne. Et malgré cela, il n'a pas cessé d'intercéder pour ce peuple, pour qu'il reçoive le pardon de Dieu. Mais Moïse n'entre pas dans le pays. Et le fait que Moïse n'entre pas, ça devrait nous surprendre. Surtout lorsqu'on réalise qui va y entrer. Dans les chapitres 31 et 32, on découvre que Dieu et Moïse savent très bien à qui ils ont affaire. Quel est ce peuple qui va rentrer dans le pays promis? Dieu dit qu'après la mort de Moïse, le peuple ira se prostituer avec des dieux étrangers. Ce peuple va l'abandonner. Mais le peuple entre dans le pays. Dieu annonce que dès que les Israélites auront goûté aux richesses du pays, ils se détourneront de Dieu. Mais le peuple entre dans le pays. Moïse affirme qu'ils sont déjà rebelles maintenant, mais ça va devenir encore pire par la suite. Mais le peuple entre dans le pays. Moïse annonce que la corruption va prendre son envol après sa mort. Mais le peuple entre dans le pays. Dans le chapitre précédent, ils peuvent composer un cantique qui est déjà au passé, comme si c'était déjà fait, qu'ils devront se chanter pour se souvenir que ça avait été annoncé. Ils ont méprisé Dieu, ils se sont montrés ingrats, ils ont été adultères, ils n'ont pas de bon sens. Mais le peuple entre dans le pays promis. C'est surprenant, n'est-ce pas? Surprenant d'avoir ce contraste entre les deux. Pour aller un peu plus loin dans la compréhension de ce qui se passe, on peut noter qu'il y a une explication dans le livre de Deutéronome, mais peut-être deux explications. Dans un premier temps, on voit au chapitre 32, les versets 50-51, les raisons pour lesquelles Moïse et Aaron n'entreront pas. Je le lis. « Tu mourras sur la montagne où tu vas monter et tu iras rejoindre les tiens, tout comme ton frère Aaron est mort sur le mont Hor et est allé rejoindre les siens. En effet, vous avez péché contre moi au milieu des Israélites, près des eaux de Meriba à Kadès, dans le désert de Tsin. Et vous n'avez pas respecté ma sainteté au milieu des Israélites. » Moïse n'a pas tenu compte de la sainteté de Dieu. Et ça, c'est la première raison. S'il n'entre pas dans le pays, c'est parce qu'il n'a pas respecté la sainteté de Dieu. On peut voir dans cet épisode, qui est d'ailleurs rappelé dans le psaume qu'on a lu tout à l'heure, les eaux de Meriba, plusieurs choses qui étaient en décalage avec ce que Dieu avait demandé. Plutôt que de parler au rocher, il va frapper à deux reprises. Avec une certaine arrogance, dire, n'est-ce pas de ce rocher que nous pouvons faire sortir de l'eau? Et il y a la colère aussi. Oui. Dans le Deutéronome, on peut voir une première raison pour laquelle Moïse n'entre pas. Mais il y a une autre face de la pièce. Quand on lit les premiers chapitres, on découvre à trois reprises une autre raison pour laquelle Moïse n'entre pas dans le pays. Je vais simplement lire Deutéronome 4, verset 21. « L'Éternel s'est irrité contre moi à cause de vous. » À cause de vous. Parce que le peuple a poussé à bout à Meriba. Il était encore en train de vivre le deuil de sa sœur. Et on se plaint. Et on continue de se plaindre. Et on le pousse à bout. On peut dans un premier temps voir que si Moïse n'entre pas dans le pays promis, c'est parce qu'il a commis des péchés lui-même. Et l'autre raison qui est tout aussi valable, c'est qu'il n'entre pas parce qu'il... Il a été poussé à bout. À cause du peuple, il n'entre pas. Moïse n'entre pas parce qu'il assume les conséquences de son péché, mais il n'entre pas non plus parce qu'il assume les conséquences du péché du peuple. On a une explication. Mais quand on a de contraste à l'esprit entre Moïse et le peuple, il faut reconnaître que ça reste surprenant, n'est-ce pas? La surprise est encore là. Et il nous faut maintenant parler de ce repos-là qui a quelque chose d'apaisant. Ce repos-là a quelque chose d'apaisant. Est-ce que le fait que Moïse n'entre pas dans le pays promis devrait nous faire conclure que Moïse n'est pas sauvé, n'est pas entré dans le repos de Dieu? On le voit dans l'Épître aux Hébreux, il va reprendre cette entrée dans le pays promis, l'auteur de cette lettre, et parler de l'entrée dans le repos en termes de salut. Et dans cette même lettre, au chapitre 11, on retrouve Moïse qui a vu et salué de loin, comme les autres, les promesses de Dieu et qui est destiné, oui, à entrer dans le repos de Dieu, oui, à bénéficier de son salut. Il est sauvé tôt comme d'autres parce qu'il a eu foi dans les promesses de Dieu. Et dans notre texte, quels sont les signes que Moïse peut faire confiance aux promesses de Dieu? Où sont les signes des promesses de Dieu dans notre texte? Eh bien, d'une part, on voit qu'il lui est permis de contempler tout le pays. Vous avez entendu la liste des endroits qui sont mentionnés. Et voir, contempler le pays, c'est ce qu'il y a de plus proche à s'en saisir d'une certaine façon. C'est le privilège qui était accordé à Abraham de parcourir tout le pays qui lui était promis à lui aussi. Et d'ailleurs, vous voyez la promesse qui est rappelée au verset 4. Et ce rappel, la promesse faite à Abraham, à Isaac, à Jacob, rappelle justement que Dieu tient ses promesses dans toutes les générations. Et Moïse peut compter sur la fidélité de Dieu à ses promesses. Un autre signe de fidélité, c'est que Dieu l'enterre lui-même. Il y a d'autres signes, il avait 120 ans au moment où il est décédé, et 120 ans, ça rappelle les trois grandes parties de sa vie. 40 ans dans la cour de Pharaon, 40 ans en tant que berger à Madian, 40 ans à diriger le peuple. Et malgré ces grandes périodes, qu'est-ce qu'il nous est dit? Sa vue n'était pas affaiblie, il n'avait pas perdu sa vigueur. Dieu lui a permis d'aller jusqu'au le haut de cette montagne pour contempler tout ce pays. Oui, Dieu a bien montré sa fidélité dans la vie de Moïse. Il y a aussi le privilège de nommer son successeur, Josué, qui est mentionné. Il y a bien les signes de fidélité de Dieu à ses promesses et dont Moïse peut se saisir. L'accent est donc mis sur les promesses de Dieu plutôt que sur une capacité à obéir à toute la loi. Vous ne trouvez pas frappant qu'on arrive ici à la fin des 5 livres de la loi? L'homme de loi, le médiateur de la loi, Moïse, ne peut pas entrer dans le pays promis parce qu'il a désobéi, parce qu'il n'a pas respecté la sainteté de Dieu. C'est frappant, n'est-ce pas? Et si lui n'a pas eu la capacité d'obéir à cette loi qu'il a pourtant transmise au peuple, qui va y arriver? Vous? Moi? Certainement pas. Et là, on a déjà les prémices de ce que l'apôtre Paul va encore appuyer dans le Nouveau Testament. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui, devant Dieu, sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Si ce n'est pas par l'obéissance à la loi, la capacité à vivre de manière juste tout au long de sa vie, alors d'où viendra l'accomplissement du salut ? Eh bien, dans ce même livre du Deutéronome, on a l'annonce de quelqu'un qui doit venir. On a l'annonce au chapitre 18, par exemple, d'un prophète comme Moïse qui doit venir, un porte-parole de Dieu qu'il faudra écouter. Celui qui accomplit des signes et des miracles encore bien plus grands que ceux de Moïse, qui marche sur les eaux plutôt que de les ouvrir. Celui qui s'adresse à Dieu dans un face-à-face incomparable, comme à son Père. Selon ses promesses, Jésus est bienvenu accomplir un salut en notre faveur. Et c'est là que se trouve ce repos, dans le salut que Jésus est venu accomplir. Non pas sur la base de nos œuvres, mais sur la base de son œuvre à lui. On l'a lu tout à l'heure, « Venez à moi, dit Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est lui qui dit ça. Et qu'est-ce qu'il y a de profondément apaisant dans ce repos-là? Avec mon épouse, pendant un an, on a habité pas très loin du stade Yves-le-Manoir à Colombes. Et c'est là qu'ont eu lieu les Jeux Olympiques, ou certaines disciplines plutôt des Jeux Olympiques de 1924. Il y a un film qui a été fait sur ces événements que vous avez peut-être vu, les chariots de feu qui datent des années 80, qui a été récompensé à Cannes. Et il est basé sur des faits réels, il y a certaines différences avec la réalité, mais essentiellement basé sur des faits réels. Et ce film présente bien le thème du repos, du sabbat. Pourquoi? Parce qu'il met sous les feux de la rampe deux athlètes britanniques qui vont courir à ces jeux. Le premier s'appelle Harold Abrahams, un juif anglais, et le deuxième s'appelle Eric Liddell, un protestant écossais. Harold Abrahams, d'abord, est spécialisé dans le 100 mètres. Il s'est battu pour en arriver à ce niveau-là. Mais tout au long du film, on le trouve en questionnement. On le voit à la recherche de son identité, de ce qu'il a dans le ventre, de ce qu'il peut devenir. Et juste avant la course, la finale du 100 mètres, on l'entend dire « Je vais lever les regards vers la piste et j'aurai 10 secondes pour justifier toute mon existence. » Je vais lever les regards vers la piste et j'aurai 10 secondes pour justifier toute mon existence. Il court, il gagne la course, mais la course n'a pas réussi à justifier son existence. Le soir même, on va le retrouver avec son entraîneur sur une terrasse avec un verre dans le nez. Il continuera à se poser des questions sur son identité, sa personne. Le deuxième personnage, c'est Eric Liddell. Et Eric Liddell, lui aussi, s'est spécialisé dans le 100 mètres. Mais quand il apprend qu'une course se fera le dimanche, il renonce. Là encore, c'est le choc pour toute l'équipe d'Angleterre et même dans les plus hautes sphères de la Grande-Bretagne. On ne comprend pas pourquoi il n'est pas prêt à courir le dimanche. Eh bien, il veut consacrer ce jour-là à l'écoute de la parole. Il veut consacrer ce jour-là à un jour mis à part pour Dieu. Les responsables font pression sur lui pour lui demander de courir quand même, mais Eric Liddell reste ferme. Il ne courra pas ce jour-là. Il va d'ailleurs se rendre dans une église du 8e arrondissement le jour de la course. Au lieu de cela, il va courir dans d'autres disciplines, le 200 mètres, le 400 mètres. Le film se focalise sur le 400 mètres et on ne s'attend pas du tout à ce qu'Eric Liddell court vite ou court jusqu'au bout, puisque ça, c'est quatre fois la distance qui était pourtant sa spécialité. Mais alors qu'il court et qu'il va gagner cette course, on lit, on entend un extrait qu'il écrit à sa sœur d'une lettre. « Je crois que Dieu m'a fait pour un but, mais il a aussi fait de moi quelqu'un de rapide. Et quand je cours, je sens son plaisir. » Sa sœur l'avait critiqué pour le fait d'avoir donné autant d'importance au fait de courir. Il était d'un côté critiqué parce qu'il n'était pas prêt à courir le dimanche, de l'autre critiqué parce qu'il courait. Mais il peut, d'un côté comme de l'autre, dire que quand il court, il sent le plaisir de Dieu. Quand je cours, je sens son plaisir. D'un côté, vous avez quelqu'un qui doit justifier son existence par le fait de courir. Et quand il gagne la course, ça n'a pas justifié son existence. De l'autre côté, vous avez un homme qui se repose en Dieu, qui ne se laisse pas impressionner par qui que ce soit. Mais quand il court en sachant que Dieu prend plaisir en lui. Et la question qu'on doit se poser, c'est sur quoi est-ce qu'on va se reposer? Sur quoi est-ce qu'on va baser notre identité, notre sécurité? Qu'est-ce qui va nous permettre de nous justifier aux yeux des autres, à nos yeux peut-être aussi, aux yeux de Dieu? Sur quoi est-ce qu'on va se reposer? La chose, elle peut être bonne au départ, comme un don, une capacité à courir. Ça peut être une compétence particulière, des amis, un tissu de relations, un charisme. Ça peut être une belle trajectoire dans les études. Ça peut être une belle trajectoire sur le plan professionnel. Ça peut même être un ministère dans l'église, quelque chose de bon au départ. Mais est-ce que c'est sur cela qu'on va s'appuyer pour trouver notre repos en Dieu, pour nous dire, dans les moments difficiles, « Ouf, j'ai au moins ça. » C'est ça qui me justifie. C'est ça qui me permet de tenir dans les moments difficiles. Quand je subis un échec professionnel, vers quoi est-ce que je me dirige pour me dire « Ouf, j'ai au moins ça. » Une situation injuste, des critiques me sont faites et là je cherche du regard la chose qui va me dire « Ouf, j'ai au moins ça. » Sur quoi est-ce qu'on va se reposer? Et si les choses vont bien? Si les choses vont bien dans ma vie, à quoi est-ce que je les attribue? À ma persévérance, à mes charismes, à ma capacité à aller au-delà des obstacles? Ce texte nous rappelle qu'il y a un repos et un repos réel que dans l'accomplissement des promesses qui se trouvent en Jésus. Et c'est en lui seul que l'on trouve un réel repos, non pas dans notre capacité à nous justifier devant Dieu. C'est une œuvre à méditer et on peut conclure ici en essayant de méditer ce qui se passe à la lumière de ce que Jésus est venu faire. C'est pas la dernière fois qu'on entend parler de Moïse dans la Bible. On le retrouve, n'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament, là encore sur une montagne, le mont de la Transfiguration, en présence de celui vers qui toute sa vie pointait, le parfait prophète, le parfait médiateur, le parfait grand prêtre, Jésus-Christ. Moïse était un homme exceptionnel, mais sa vie pointait vers quelqu'un de bien plus grand que lui. Et sur cette montagne-là, cette fois, c'est pas la mort de Moïse qui est en vue, c'est la mort de Jésus. Jésus va lui aussi mourir sur un mont, le mont du Calvaire. Il va mourir lui aussi exclu à l'extérieur de la ville. Jésus va connaître l'exclusion pour que son peuple puisse entrer dans le pays promis, dans le royaume promis. Le repos dont la Bible nous parle a donc quelque chose de surprenant. Il est basé sur un juste qui est exclu pour que les injustes puissent entrer. Mais le repos dont la Bible nous parle a quelque chose d'apaisant, parce qu'il est basé non pas sur nos œuvres, mais sur ses œuvres à lui. Et c'est dans ce repos-là que je vous invite à vous placer. Que le Seigneur nous accorde cette grâce-là. Amen.